tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'allons pas dénouer un fil, mais suivre les effluves d'un sillage. Car il est de ces objets discrets qui, sans jamais s'imposer, finissent par tout structurer. Et le parfum est de cela. On pourrait le croire accessoire, et pourtant, depuis plus d'un siècle, il accompagne la couture de si près qu'il en épouse les transformations, les ambitions et parfois même l'essence même du secteur. Avant les couturiers, évidemment, la parfumerie existe déjà. Elle est solidement installée dans un savoir-faire artisanal et elle révèle beaucoup de choses des premières logiques industrielles. Mais au tournant du XXe siècle, quelque chose bascule. Des figures comme Paul Poiret, Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin ne se contentent plus d'habiller, elles prolongent leurs gestes dans l'invisible et font du parfum un territoire à part entière, un élément structurel du vestiaire. Ce qui s'invente alors dépasse de loin la simple création, car très vite, le parfum devient un levier. D'abord, il fidélise la clientèle, puis l'élargit et installe les maisons dans la durée, leur donne une portée que la couture seule ne pouvait atteindre. De Chanel numéro 5 aux grandes constructions olfactives de la fin du XXe siècle jusqu'aux collections exclusives d'aujourd'hui, le parfum ne cesse d'accompagner et parfois de devancer les mutations du luxe. Et c'est cette histoire à la fois esthétique et économique, visible et souterraine, que nous allons déployer aujourd'hui. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Defedo, historienne du parfum, dont les travaux permettent de saisir avec précision ce que le parfum fait à la mode et ce que la mode, en retour, fait au parfum. Ensemble, nous allons retracer l'entrée des maisons de couture dans la parfumerie, mais également aborder l'histoire du parfum pour comprendre vraiment comment il a évolué, comprendre les modèles qui ont construit aussi la mode et le luxe grâce au parfum, et interroger ce que cette évolution dit, finalement, de l'histoire du luxe jusqu'à ses formes les plus contemporaines. Je vous enjoins à aller sur l'Instagram de Décousu, Décousu Podcast, pour ne rien manquer des épisodes à venir et surtout pour laisser vos avis et vos commentaires. N'hésitez par ailleurs pas du tout à partager l'épisode autour de vous. Si ce sujet vous plaît, je suis sûre qu'il pourra intéresser plein de gens autour de vous. Allez, moi je laisse cette introduction brève. Je remercie Elisabeth pour son temps et je vous souhaite un merveilleux épisode. Donc aujourd'hui, pour Décousu et pour aborder un sujet passionnant qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Defedo. Donc pour commencer, j'aime bien demander à mes invités, comment est-ce que vous allez aujourd'hui ?
Eh bien écoutez, je vais très bien et je suis ravie de participer à ce podcast Décousu.
Alors on va commencer sans tarder, mais avant d'aborder les questions plus historiques et générales, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les auditeurs pour comprendre un peu vos activités, ce que vous faites et pourquoi c'est pertinent aujourd'hui de vous recevoir pour parler du parfum ?
Alors, donc, je suis historienne du parfum. J'ai fait ma thèse de doctorat à la Sorbonne, il y a déjà plusieurs années, spécialisée sur le 19e et le 20e siècle, avec ce sujet qui était de l'hygiène au rêve, l'industrie française des parfums. À partir de là, j'ai travaillé chez Chanel, où j'ai commencé à monter les bases de l'actuel conservatoire des parfums. Et puis, me suis arrêtée pour des raisons personnelles et j'ai commencé donc à devenir consultante pour toutes les grandes maisons de luxe en parfumerie. Ce que j'aime, en fait, comment me définir, c'est que j'aime construire un pont entre le passé et le présent pour aller davantage vers l'avenir.
Exactement, mais justement c'est ce dont on va pouvoir parler en détail aujourd'hui parce que, ben, vous l'aurez compris, évidemment Décousu c'est un podcast qui analyse le secteur de la mode et de la haute couture, donc aujourd'hui on va vraiment s'intéresser au lien qui est en fait, comment dire, presque indissociable en réalité, hein, des maisons de couture et du parfum. Donc avant de vraiment rentrer dans ce lien profond qu'il y a entre les maisons de couture et les parfums, on va d'abord essayer historiquement de poser les bases vraiment de l'hégémonie du parfum au début du 19e, pour comprendre en fait Avant l'apparition des parfums de couturiers, comment se structure historiquement l'histoire de la parfumerie en France et en Europe? Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire que fonctionnait le monde du parfum finalement avant l'époque moderne? Et à partir de quand vraiment la parfumerie s'est constituée comme une industrie du luxe à part entière, sans parler encore des couturiers?
Alors, vous savez, l'histoire du parfum, c'est plus de 3000 ans d'histoire. J'ai toujours coutume de dire qu'en racontant l'histoire du parfum, on déroule toute l'histoire de l'humanité. On parcourt les civilisations avec cette particularité d'être toujours dans l'intime. Si on veut revenir plus dans le cœur de notre sujet, c'est vrai qu'avant l'avènement des couturiers parfumeurs, donc au tout début du XXe siècle, il y avait...
J'ai dit 19e, mais effectivement, c'est 20e.
Voilà, au tout début du XXe siècle, il y avait déjà une activité très structurée en Europe où, pour vous le faire court, l'Italie avait tout d'abord la suprématie et à partir du XVIIe siècle, la France va reprendre la main pour devenir vraiment la terre d'élection du parfum. En France, on a la constitution d'un métier de parfumeur dès 1190, avec des statuts qui sont confirmés par plusieurs rois tout au long des siècles. Et la particularité qu'a notre métier de parfumeur en France par rapport à d'autres grands pays comme l'Italie ou l'Angleterre, voyez, par rapport au parfum, c'est que nous, le parfum, le métier de parfumeur a été un métier secondaire, soit de l'apothicaire, soit du gantier. Et donc, il y a ces deux piliers qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, l'apothicairerie qui va nous donner tout ce secteur du bien-être, de l'hygiène tout d'abord, et puis le bien-être. Et aussi, déjà, cette alliance ancestrale que le parfum français a avec la mode. Parce que le gant parfumé, c'est déjà cette idée de l'empreinte, voyez. C'est déjà cette idée du sillage, qui est un mot qui est tellement français qu'on ne peut pas ou presque le traduire en anglais ou dans d'autres langues.
Ou même le prononcer,
exactement. Donc, en 1190, on a cette communauté des gantiers parfumeurs qui va être dissoute en 1791, au moment de la Révolution française, et par la loi Le Chapelier, qui va instituer la libre entreprise. Donc, il y a cette période révolutionnaire, évidemment, où, comme vous pouvez l'imaginer, l'industrie du parfum, ce n'est pas la préoccupation principale. Et on voit progressivement le métier de parfumeur se reconstituer à partir de 1810, 1830. Et puis l'industrialisation va toucher le secteur de la parfumerie en 1860, donc avec cette introduction de la vapeur dans toutes les grandes fabriques de parfums, aussi bien à Paris qu'à Grasse. Parce que déjà, le métier se structure au travers de deux pôles, on va dire peut-être trois pôles, mais en tous les cas, deux pôles principaux. Paris, qui est la ville de l'élégance, qui est surtout au 19e siècle, et ce rayonnement, même un peu avant le 19e, au 18e, vous savez, il y a Montesquieu qui disait « Quand on a été femme à Paris, on ne saurait l'être ailleurs », ou Talleyrand qui disait qu'il n'a pas connu la France avant 1789, ne sait pas ce que c'est que la douceur de vivre. Donc on est déjà dans cette excellence qui vient un petit peu plus tôt avec toute la politique mercantiliste de Colbert au XVIIe siècle, qui va instituer les métiers d'art. Parmi les métiers d'art, on retrouve le parfum. Parce que Colbert avait lancé, alors ce qui est pour l'historien une mine d'or, une grande enquête dans tous les métiers français, et le métier de parfumeur avait été distingué comme étant potentiellement lucratif, donc pour rapporter cette devise or que la France ne produisait pas. Donc au XVIIe, on a déjà ces premières lettres de noblesse, confirmées au XVIIIe siècle, où vraiment, là, c'est Paris et non plus Versailles qui va devenir l'épicentre du bon goût. Et puis, bien sûr, au XIXe siècle, Paris est la ville des Lumières. Donc, on a ce rayonnement européen et donc international de la France. Et puis, le deuxième pôle, ça a été tout d'abord Montpellier, puisque c'est la ville des apothicaires, la grande faculté de pharmacie dès le Moyen-Âge. Mais peu à peu, au XVIIIe, Montpellier va céder cette place à Grasse, qui est la ville des tanneurs, et qui jouit d'un climat très propice à la culture des fleurs. Et comme au XVIIIe siècle apparaît ce nouveau schéma olfactif qu'on appelle le bouquet floral, forcément Grasse va prendre l'ascendant sur Montpellier. Et puis, entre-temps, il y a quand même un personnage très important pour notre histoire. Je vous ai parlé de Louis XIV, mais un peu avant Louis XIV, on a Catherine de Médicis, qui arrive donc en 1533, pour épouser le futur Henri II. Et elle arrive avec son parfumeur, Renato Bianco, qui a été formé à l'école de Florence. Et elle apporte en France tout ce raffinement de l'art de vie florentin. Et aussi, elle va faire passer ce métier de parfumeur, qui était un peu rudimentaire en France, à un métier du luxe et un métier de la cour. Et c'est vraiment là où la transition se fait. Et peu à peu, le métier de parfumeur français va apprendre de son modèle italien et va prendre la suprématie, en plus avec par la suite les lois de Colbert, donc en faveur du métier d'art. Donc voilà comment ça se met progressivement en place. Et c'est vrai que le 19e siècle va consacrer l'industrie française du parfum.
Voilà, parce que donc après la Révolution et le fait que le métier revienne et se restructure, finalement, on a déjà parlé sur les tout premiers épisodes de la naissance de la haute couture, donc là c'est vraiment lié à Charles Frederick Worth, mais c'est vraiment lié au Second Empire en 57-58. Mais c'est vrai qu'en fait c'est assez fou de voir qu'il y a des vagues comme ça. On a Louis XIV, puis on a le Second Empire, etc., qui structurent vraiment cette industrie du luxe, avec un grand L en France. Et donc, à partir de quel moment la parfumerie n'est plus uniquement une espèce de secteur un peu parallèle, mais vraiment s'industrialise, avant de devenir vraiment industriel, parce qu'on parlera après des notes de synthèse, mais quand est-ce que ça devient vraiment une dimension à part entière et du monde du luxe, et qu'il y a des maisons qui se constituent, qui deviennent reconnaissables, identifiables, avec une identité de marque, avant qu'il y ait vraiment un couturier qui s'en empare?
Alors, avant donc l'industrialisation, on la situe en 1860. Le métier est artisanal, le parfumeur il est sur mesure et le parfum est 100% naturel. Il n'y a pas de notes de synthèse évidemment. Donc à partir des années 1860, on a l'industrialisation qui touche aussi bien Paris que Grasse. Pour tous les métiers de la parfumerie, on a l'édification des usines modèles, ce qu'on appelait l'usine modèle, où en périphérie de Paris, donc soit dans la banlieue ouest, le Valois, Bois-Colombes, etc., soit au contraire le nord-est, Pantin, la Villette, si vous voulez, tout simplement parce que ça va suivre les voies de transport, de communication. Voilà. Et puis aussi, un deuxième intérêt, c'est que l'usine se met à l'extérieur de Paris pour éviter de payer les droits d'octroi. Et la grande particularité aussi, la grande conséquence de ça, de ce mouvement industriel, c'est que avant, donc, le parfumeur était un artisan boutiquier qui avait au même endroit le laboratoire et la boutique. On le voit très très bien dans tous les modèles des parfumeurs du 18e. Moi, j'ai travaillé sur le parfumeur de Marie-Antoinette, qui était Jean-Louis Fargeon, qui avait sa boutique rue du Roule. Il avait la boutique et le laboratoire en arrière-boutique. Donc, dans un cadre d'assainissement de Paris, vous savez, tous ces travaux qui ont été lancés sous le Second Empire par le baron Haussmann, eh bien, effectivement, ces usines étaient un peu dangereuses quand même, et du coup, elles sont dissociées, et va naître ce que l'on appelle le salon de vente. Donc, du coup, la boutique du parfumeur va devenir un lieu très élégant. Nous sommes sous le Second Empire. Donc, on a cette idée de l'industrie du luxe qui se met en place. Et le salon de vente va envahir les nouveaux quartiers du luxe, notamment le quartier de l'Opéra. Donc, vous voyez, avant, c'était le premier, en fait, la rue du Roule, la rue Saint-Honoré et la rue du Faubourg Saint-Honoré.
On voit d'ailleurs encore aujourd'hui cet héritage.
Et d'ailleurs, regardez aujourd'hui, c'est assez étonnant, la rue Saint-Honoré, qui est une véritable rue de parfumeur.
C'est génial.
C'est impressionnant. Donc, vous voyez, l'histoire, elle marque les choses. Les murs ont toujours une mémoire. Donc, on a vraiment ce mouvement. Voilà, la rue du Roule, la rue Saint-Honoré, la rue du Faubourg Saint-Honoré et le nouveau quartier du luxe au Second Empire. Sous le Second Empire, c'est le quartier de l'Opéra avec le boulevard des Capucines, l'avenue de l'Opéra, etc. Ou la place Vendôme, la rue de la Paix, évidemment, la rue la plus mal chaussée de Paris, puisque Pierre-François Pascal Guerlain, quand il va en 1841 établir sa boutique, il quitte la rue de Rivoli pour établir sa première boutique, rue de la Paix. On lui dit, mais c'est la rue la plus mal chaussée de Paris, et pourtant ça va devenir la grande rue du luxe, avec bien sûr l'établissement après de Césaritz. Donc progressivement ça deviendra un grand quartier du luxe. Donc vous voyez, il y a l'industrie, donc les usines modèles, qu'on appelle modèles parce qu'elles sont très propres, que La main-d'œuvre est largement alphabétisée, féminine déjà, hein, très caractérisée par une main-d'œuvre féminine. Et puis, le salon de vente, où on va se presser de façon élégante, où on est reçu, où on va passer un bon moment. Et il faut se mettre aussi dans la tête que pour ce 19e siècle bourgeois qui thésaurise, acheter un parfum qui s'évapore, qui est immatériel, qui est invisible, il faut des traces du luxe, il faut des signes visibles. Donc le premier signe, ça va être la boutique, ça sera ensuite le flacon, et on a en 1870 la naissance de la marque.
Alors voilà, oui, parce que justement, là, alors ça, c'est absolument passionnant ce que vous dites, effectivement, et justement, je voulais aborder cette notion vraiment de quand est-ce que la marque d'une maison de parfum apparaît, donc forcément les Guerlain, les François Coty, etc., qui sont des personnages absolument clés pour aborder cette question. Quand est-ce que vraiment on arrive à un moment donné où on n'est pas juste un artisan, comme par exemple, on pourrait le comparer avec des modistes dans la mode, et quand est-ce qu'il y a cette signature avec Wers qui va faire ça pour la couture, et pour le parfum, quand est-ce que vraiment la marque et l'identité visuelle d'un univers, d'une maison de parfum, commence à vraiment devenir moderne?
Alors, ça se fait avec l'industrialisation, parce que, comme je vous disais, on n'est plus dans la parfumerie sur mesure, donc on n'est plus dans le flacon à parfum, qui était destiné à recevoir un parfum, mais un parfum ou un autre, voyez. On va devenir, on voit la naissance du flacon de parfum, et là aussi, le flacon donc, de parfum va aussi s'industrialiser. Alors, qu'est-ce qui se lance dans cette fabrication de parfums, de flacons? Ce seront tous ceux qui déjà maîtrisent l'art du verre, donc, et du cristal plutôt, baccarat.
L'art nouveau.
Bien avant. On est sous le Second Empire. Hein. Donc, Second Empire et 1870, oui, la naissance de la marque.
Début 60.
Voilà, on est, je vous dis, avec l'industrialisation 1860-70. Donc, les premiers à se mettre dans cette aventure, ce sera Baccarat, Saint-Louis, tous ceux qui déjà, qui existent encore. Et ils vont adapter tout simplement leur catalogue de flacons à liqueur aux flacons de parfum. Et qu'est-ce qui va distinguer une marque d'une autre? Ce sera l'étiquette. Et l'étiquette sera très bavarde à l'époque parce qu'il faut déjà rassurer. Voyez, les personnes s'inquiètent, les médecins, la médecine s'en mêle. Est-ce que le parfum n'est pas mauvais pour la santé? Un peu les débats qu'on a aujourd'hui. Hein, voyez, ça y était déjà. Et on a une uniformisation des flacons puisqu'on est dans ces flacons typiques du carafon à liqueur, voyez, qui ressemblent à ça. Mais on va avoir des étiquettes très bavardes. Et surtout, on a l'application de la marque de fabrique. Ça, c'est très important parce qu'il y a déjà de la contrefaçon. Ah. Et du coup, on voit ces marques comme Guerlain, effectivement, qui a été établie en 1828 et qui va bien sûr suivre tout le mouvement de l'industrialisation, déposer sa marque de fabrique. Puis tous les autres grands parfumeurs comme L.T. Piver, comme Dorsay, ou Bigand, qui sont ces grands parfumeurs du 19e siècle, vont aussi créer cette marque de fabrique pour distinguer l'œuvre originale de la contrefaçon.
Mais il me semble aussi qu'il y a vraiment, dans cette notion du flaconnage, il y a aussi, j'ai envie de dire parfois, un peu une course à l'échalote, dans le sens où on va voir, là je pense récemment, il y a une exposition qui était liée à Paul Poiret, là on avance au début du XXe siècle, donc on avance vite, mais il y a vraiment cette dimension de vouloir créer un univers entier. L'idée, c'est, on pourrait appeler ça aujourd'hui dans la notion de lifestyle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de vouloir créer une marque qui soit 360. Donc, avant d'aborder, parce que vraiment, je trouve ça passionnant, donc avant d'aborder les premiers liens avec les couturiers, j'aimerais juste revenir sur cette dimension industrielle avec les notes de synthèse, parce qu'il me semble que Guerlain n'y est pas pour rien, et si je ne m'abuse, il me semble que c'est le parfum qu'il a réalisé pour sa femme, où il y a des premières notes de synthèse. En tout cas, comment ça se passe de ce point de vue-là, où justement la parfumerie peut devenir quelque chose qui va pouvoir être produit de grande façon avec un même jus, finalement, qu'on va pouvoir produire en masse, enfin, oui, quand même en masse, de façon industrielle, et qui va permettre aussi aux marques de générer un produit qui va être performant. Quand est-ce que vraiment cette notion-là va s'instaurer?
Alors, effectivement, vous avez raison de le souligner, l'application des notes de synthèse à la parfumerie va changer la donne parce que ça va permettre d'avoir de la stabilité, Et surtout,
démocratisation peut-être aussi.
Pas encore tout à fait avec Guerlain. Les premières applications se font à la fin du 19e siècle. On a deux grands pionniers. C'est Paul Parquet avec Fougère Royale d'Aubigan en 1982 et Jikide Guerlain en 1889. Et c'est Aimé Guerlain qui va avoir l'idée donc, d'ajouter vanilline coumarine à un schéma, on va dire, d'une colonne traditionnelle, si ce n'est qu'elle est très animale dans ses notes de fond. Et il faut quand même rappeler une chose, c'est que ces premières applications ne se sont pas faites sans heurts. Il y a une véritable querelle des anciens et des modernes. Tous les parfumeurs criaient à l'imposture, au drame. Enfin, ça allait rendre malade absolument tout le monde, que c'était très mauvais, etc. Mais certains parfumeurs ont bien vu qu'effectivement, ces notes artificielles allaient faire naître vraiment l'art du parfum et leur permettaient de se détacher des récoltes, vous voyez, de ce côté très saisonnier aussi de la création, avec de véritables modèles qui allaient évoluer vers un art du parfum. À la même époque, je vous le rappelle, on est quand même dans tout l'impressionnisme. Ça participe à l'évolution de l'art du parfum, ça participe à cette différence pour créer donc des nouveaux parfums. On le voit aussi dans le flaconnage, puisque ça va être l'époque aussi de l'art nouveau. Et là aussi, voilà, on va être dans des formes un peu différentes qui se distinguent d'une marque à l'autre.
Mais ça, celui, je pensais à François Coty.
Mais alors voilà, mais c'est celui qui va vraiment tout bouleverser, c'est François Coty. Et on est au tout début du XXe siècle, on est en 1904. François Coty, qui n'y a pas du tout du monde du parfum, qui est un nouveau venu, qui se rêve d'ailleurs beaucoup plus politicien, pour financer donc sa carrière politique, il va préparer chez un ami pharmacien près du Champ de Mars des eaux de Cologne. Et en 1900 se tient la fameuse grande exposition universelle. Et il la visite et il trouve que le secteur parfumerie, il est un peu obsolète, il est un peu démodé par rapport justement à tout ce progrès qui est en marche, y compris dans la couture, voyez. Et lui, il se dit, je vais révolutionner ce secteur et aussi je vais m'adresser à une nouvelle catégorie sociale qui est en marche, qui est en train de se constituer, qui est cette classe moyenne. Vous savez, traditionnellement, on avait en fait le monde ouvrier, la paysannerie et la bourgeoisie, plutôt haute bourgeoisie. Mais cette petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, devient de plus en plus importante. Elle est caractérisée par une alphabétisation, majoritairement, et une aspiration au luxe sans en avoir les moyens. Donc elle est raffinée, si vous voulez. Elle va avoir envie de jolis produits, mais elle n'a pas non plus les moyens de la haute bourgeoisie pour aller chez les grands parfumeurs. Et François Coty s'est dit, je vais m'adresser à cette catégorie-là. Et du coup, il ne veut pas abaisser le schéma olfactif, il va démocratiser par une application beaucoup plus massive des notes de synthèse au schéma traditionnel olfactif. Et c'est ainsi qu'il va révolutionner les familles olfactives qui existaient avant lui. La famille Hespéridée existait depuis le XVIIe siècle, la famille florale existait depuis le XVIIIe, la fougère existait depuis la fin du XIXe siècle. Et lui, il va regarder tous ces schémas et il va les moderniser, et notamment avec la famille Ambrée aussi, avec son Ambre antique qui a été créé en 1905. Il va moderniser par une application beaucoup plus importante des notes de synthèse. Et puis aussi, il a cette idée absolument magistral, que le parfum est un objet avant d'être une senteur. Il a compris que quand on s'adresse au plus grand nombre, il faut que le parfum parle.
C'est ça. Il y a l'univers visuel, il y a la marque qui va derrière. Là, et donc ça, alors, justement, là, entrons, parce que François Coty, ça pourrait être un sujet à part entière, mais rentrons là vraiment dans le sujet, c'est-à-dire les liens entre la couture, le monde des maisons de couture et le parfum, puisque ça commence vraiment à devenir un élément assez central finalement du monde de la couture, puisque les maisons de couture vont vouloir créer un univers global. Et en fait, bah justement, cette dimension du sillage, de l'objet culturel qu'est le parfum, ça devient presque un élément représentatif de cette possibilité qu'a une maison de luxe a vraiment créé un univers. Donc, à partir de quand et comment expliquer en fait que les maisons de couture commencent à créer des parfums au début du 20e et quand est-ce qu'on pourrait vraiment commencer à dater ça? Est-ce que c'est avec Paul Poiret, notamment avec les parfums de Rosine en 1911? Est-ce que c'est un peu avant? Parce qu'il me semble que ça a vraiment été un pivot assez important, même parce que lui avait une vision vraiment très 360 de l'univers du luxe et il est un peu pionnier et tout le monde va un peu suivre le pli.
Alors effectivement, vous avez raison, ça commence. Le premier couturier parfumeur, c'est Paul Poiret. Mais on avait quand même, quand on regarde, si vous voulez, le tissu professionnel de la parfumerie, même au 19e siècle, on a tous ces petits faiseurs de l'ombre, si vous voulez, dans le milieu du parfum, qui déjà associaient les milieux de la mode à ceux du parfum. Il n'est pas rare de trouver un corsetier parfumeur, un chaussurier, enfin, un bottier parfumeur, vous voyez. Et alors, bien sûr, c'était très à la marge. Voilà. C'était au niveau de l'artisan. Mais malgré tout, il y avait déjà cette idée, et je vous le rappelle, avec la communauté des gantiers parfumeurs, on avait déjà cette idée de l'union entre la mode et le parfum.
Mais là, c'est l'objet de mode, mais je veux dire à partir du moment où il y a vraiment la marque qui va se constituer.
Alors, Paul Poiret, effectivement, a compris que c'était un enjeu important. On raconte qu'il avait tiré cette idée des ateliers viennois, ou qui était une sorte de concept store hein, de l'époque. Donc effectivement, dans ces ateliers de Vienne, les femmes pouvaient trouver tout ce qui leur faisait plaisir. Donc ça allait du chapeau aux gants, passant par la voilette, les dentelles, et les robes, bien sûr, les corsets, et évidemment, les parfums et le maquillage. Et donc, Paul Poiret se dit, mais finalement, c'est une excellente idée de globaliser comme ça l'offre et de faire entrer la femme dans un univers complet. Il va instituer d'un côté les parfums de Rosine en 1911 et de l'autre l'atelier de Martine qui était un concept store des arts décoratifs. Hein. Et donc la femme Poiret était véritablement dans un univers global. Paul Poiret avait eu aussi cette idée, on va quand même parler de l'enjeu économique, hein. C'est que depuis Worth, les défilés de couture coûtaient de plus en plus cher. Et donc, il fallait financer cette activité haute couture par d'autres rentrées financières. Et il était notoire que le parfum était un excellent, générait, si vous voulez, des profits très importants. On en a des preuves tout à fait tangibles. Par exemple, on a toute l'étude de la maison, enfin, des repreneurs Roger et Gallet. Qui avait fait l'étude, et donc on a tout le dossier bancaire, si vous voulez, qui prouve que la parfumerie était une activité extrêmement rentable.
Depuis les notes de synthèse aussi, j'imagine.
Encore plus avec les notes de synthèse, évidemment, mais même à l'origine, c'était tout à fait rentable. Et donc, c'est pour ça que Paul Poiret se dit, ben voilà, ça va être une façon, finalement, la clientèle initiale, je l'ai, et je vais lui vendre du parfum. Mais il a fait une énorme erreur de marque, c'est qu'il a évidemment séparé son activité couture de son activité parfum en donnant deux noms différents. Et ça, c'est en stratégie de marque, comme vous le comprenez, c'est évidemment extrêmement négatif. Et en plus, c'était un homme avec un sens assez débonnaire hein, et très...
C'est pas très bien fini économiquement, d'ailleurs.
Très mal terminé. Donc, il a fait une grosse faillite en 1936 et... Néanmoins, il a un livre en habillant l'époque qui est absolument passionnant et dans lequel, dans ce livre-là, il aborde aussi tout ce chapitre sur les parfums. Et là, là aussi, il a été visionnaire et là aussi, il a été très intéressant en profitant des leçons de Coty. Mais il a créé des parfums très opulents, texturés, donc déjà comme sa mode, voyez. Il avait cette idée finalement de donner au parfum une silhouette. Et ça, c'est très important et c'est ce qui va expliquer aussi le grand succès des couturiers parfumeurs, c'est que le parfum de couturier, il a une silhouette, ce que n'avait pas le parfum de parfumeur.
Et alors là, on va parler d'une silhouette mythique, oui. Absolument indispensable pour quand on parle des liens entre parfumerie et couture. Alors évidemment, là, ça va être important aussi de parler des enjeux économiques parce que forcément... on va devoir parler du numéro 5 en 1921, qui est absolument indispensable et qui va vraiment faire, parce que en fait, on parle toujours de la maison Chanel, etc., mais il faut vraiment comprendre que d'un point de vue économique, ce qui va aussi assurer une rente à la femme Gabrielle Chanel, c'est le parfum. Beaucoup plus que la couture, en réalité. Donc, en fait, Là, il n'y a pas eu cette erreur de marque. Voilà. Donc, même si c'est une société fille qui a été créée, etc., comment ça se passe concrètement dans les années, en 1921 quand le Chanel numéro 5 se lance, et qu'est-ce que ça change vraiment dans le paysage du parfum et du lien avec la couture ?
Alors, effectivement, Chanel avait tout compris. Hein. Elle a, vous savez, c'est ce dessin de Jean Cocteau qui est très cruel. Poiret s'éloigne, Chanel arrive. Et là encore, en parfumerie, elle est arrivée. C'est-à-dire qu'elle a compris que c'était une erreur. Et elle va encore pousser plus loin cette idée du total look de la marque. Donc, ses parfums, et en l'occurrence le numéro 5, sera à l'image de sa mode. Un parfum qui est cubiste, un parfum sobre, un parfum avec un étui qui est comme un manteau qui habille une robe, un parfum qui va porter tous ses codes. Et ça, c'est très important. Mais il faut... Alors, évidemment, elle va, on va dire, faire l'introduction de ce grand mouvement, de cette première génération des couturiers parfumeurs. Mais il faut quand même retenir une chose, c'est que dans l'entre-deux-guerres, le parfum de couturier n'est pas démocratique. Le parfum de couturier,
oui, bien sûr. Alors ça, on va en parler après, mais c'est essentiel. Hein. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein.
Rien à voir avec aujourd'hui. Le parfum de couturier est une niche qui ne s'adresse qu'aux clientes initiales. Et j'en veux pour preuve toutes ces déclarations. Chanel, au début, va offrir le numéro 5 à ses bonnes clientes. Elle fait mine de ne pas le vendre. Elle le vaporise partout. Tout le monde lui demande d'où ça vient. « Ah, c'est mon petit parfumeur. Si vous voulez, je vous en donnerai quelques flacons. » Jeanne Lanvin va faire exactement la même chose. C'est un cadeau à sa fille. Patou aussi, pour consoler. Le Joy est un cadeau de consolation pour ses clientes américaines qui sont ruinées, qui ne font pas le voyage à Paris pour commander la couture. Donc, si vous voulez, il y a toujours cette idée vraiment de la clientèle initiale, du happy few. Hein. Mais on n'est pas du tout dans un luxe de rue. Hein. On n'est pas du tout dans un succès de rue, je veux dire. On est vraiment dans quelque chose de très élitiste.
Alors justement, ça c'est prodigieusement essentiel et je voulais vraiment en parler parce qu'en fait, aujourd'hui on a cette vision séphoresque concrètement du parfum où on rentre, on achète et qu'on soit monsieur, madame, tout le monde, presque on peut aller s'acheter en n'ayant pas à penser le matin en faisant ses courses. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ces maisons-là, c'est moins l'idée de se dire, parce qu'aujourd'hui le luxe fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est moins l'idée de se dire on va toucher des clients pour avoir une rentrée massive d'argent, mais c'est plus l'idée de se dire en fait on va vraiment créer un monde 360 pour une clientèle choisie.
Absolument.
Voilà, on n'est pas encore dans cette vision où le luxe dépend de la masse. Et donc, justement, là où ça va changer, ça va être notamment avec Mugler, et beaucoup plus tôt aussi avec Saint Laurent, mais Mugler, ça va vraiment être un moment important. Mais avant de parler de ça, justement, il y a quand même cette dimension de se dire, finalement, même si c'est quelque chose qui est pour les happy show, etc., en quoi ça reste quand même indispensable pour une maison et pour la viabilité économique d'une maison, même qui s'adresse à une clientèle restreinte, donc même dans ces années 30, etc., avant la Seconde Guerre mondiale, pour vraiment comprendre aussi en quoi, dans la construction d'une maison, c'est stratégique d'avoir un parfum.
Alors, de toute façon, même déjà à cette époque, même si ça touchait qu'une poignée de clientes, c'était quand même déjà très lucratif et très intéressant. Sinon, toutes ces maisons ne se seraient pas lancées dans l'aventure parfum. On le voit avec Schiaparelli aussi, quand elle décide en 37 de lancer son Shocking, elle avait lancé quelques parfums un peu avant, mais c'est très nettement un enjeu économique et financier aussi.
Ce qui explique d'ailleurs ce qui s'est passé malheureusement pendant la Seconde Guerre mondiale par rapport au Wertheimer avec Chanel, qui a vraiment été une guerre économique pour récupérer des parts sur cette entreprise du parfum.
Absolument. Alors, il faut savoir aussi que Chanel, comme c'était tellement pour elle au début, le numéro 5, un peu un parfum qu'elle partageait avec ses bonnes clientes, elle n'avait pas eu exactement, elle n'avait pas compris, si vous voulez, ce que ça pouvait devenir financièrement. Et donc, le contrat qu'elle avait signé en 1924 n'était pas tout à fait en sa faveur. Donc, elle avait quand même une rancune, si vous voulez, pour ne pas dire une rancœur par rapport à ça. Et effectivement, elle va profiter de la Seconde Guerre mondiale pour essayer de remonter un peu la chose et à obtenir une meilleure répartition des gains. Mais ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, les choses vont s'inverser avec toute cette génération de Christian Dior pour qui le parfum est la pierre philosophale, je vous le rappelle, mais aussi Givenchy.
Il y a vraiment une vision très stratégique économique, lui, pour le coup.
Voilà, Balenciaga, Givenchy, toute cette seconde, Balmain, etc. Là, on est dans une notion un petit peu différente, c'est que le parfum va devenir non seulement l'empreinte de la maison, mais la porte d'entrée dans leur univers. Et là, on va totalement changer les choses, c'est-à-dire qu'au contraire, la femme qui ne pourra pas s'acheter le new look, qui ne pourra pas s'acheter les séparables de Givenchy, etc., elle va s'acheter le parfum pour entrer dans un univers auquel elle n'a pas accès.
Là, on entre dans ce qui se passe aujourd'hui.
Et voilà. Et on retrouve exactement cette même démarche en 76 avec Van Cleef et l'univers de la joaillerie, et un peu avant avec Hermès et l'univers de la maroquinerie en 51 avec Claude Hermès. Vous n'avez pas le sac Kelly, vous aurez l'odeur, voyez. On est dans cette histoire vraiment de l'empreinte et d'élargir sa clientèle par des, on ne va pas dire des produits dérivés, mais par
Des produits d'appel, quoi.
Voilà, exactement, des entrées de gamme, quelque part. Le parfum va vraiment jouer ce côté-là, porte d'entrée dans le luxe.
Et parce que comment fonctionne dans ces années-là, les années d'un peu avant-guerre et puis d'après-guerre, comment fonctionne en fait le modèle économique ? C'est-à-dire, est-ce que tout ça est fait en interne ? Parce que je pense par exemple au parfumeur chez Chanel, qui aujourd'hui, c'est encore la même famille qui continue, mais c'est un cas un peu exceptionnel, donc... Comment à cette époque-là, et on parlera après d'aujourd'hui, mais comment ça fonctionne ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des nés indépendants ? Est-ce que c'est des nés en interne dans les maisons ? Comment ça fonctionne aussi en termes de création des packaging, des flacons ? Quel est un peu le modèle derrière ?
Oui, donc le modèle, en fait, au début, était externalisé. Donc, ce qui était le cas, par exemple, de Chanel, elle va aller dans une maison de création qui, en général, était des maisons grassoises. Elle va s'adresser à un nez, qui est Ernest Beau. Et du coup... La création se fait évidemment de façon très, comment dire, équilibrée, au sens où, d'ailleurs, à l'époque, on ne retenait pas du tout le nom du parfumeur, hein, c'était Gabriel Chanel. Donc, il y avait vraiment ce pas de deux, si vous voulez, avec le parfumeur. Et ensuite, le parfum était fabriqué dans une usine qui était... qui pouvait être indépendante. Donc, en l'occurrence, par exemple, pour le numéro 5, vous avez eu, au tout début, en 21, Chanel s'adresse à Ernest Beau, dans le sud de la France. Elle fait fabriquer son parfum dans une petite usine locale. Là, on n'est vraiment pas du tout à l'échelle industrielle. Quand, en revanche, elle s'associe avec les frères Vertemer, qui, eux, sont déjà des industriels du parfum, le numéro 5 sera fabriqué dans les usines bourgeois, puisque c'était... l'outil industriel des Vertemer pour la maison bourgeois. Et ce qu'on voit pour l'après-guerre, où le mouvement va se généraliser, c'est que les maisons de matières premières, à l'époque notamment Roure, qui est aujourd'hui, on peut dire, la maison Givaudan, vont créer un département de parfumeurs pour les couturiers. Et du coup, ces parfumeurs, qui sont des créatifs, vont être mis à la disposition des grands couturiers. On le voit par exemple avec Germaine Cellier, qui va créer un certain nombre de parfums pour les couturiers des années fin 40 et 50. Et du coup, ça sera une activité, vous voyez, extérieure, un peu comme aujourd'hui, où vous avez des maisons qui s'adressent à IFF, Hermione, Givaudan, etc., qui ont un certain nombre de parfumeurs qui créent pour eux. Et puis aussi, vous avez... Alors ça, c'est pour la partie création. Puis après, vous avez des industries qui sont là pour créer. Vous avez l'outil industriel, donc qui peut être tout à fait partagé. Et puis ensuite, quand les choses s'annoncent bien et s'installent, en général, ce qui a été le cas de Chanel, c'est que Ernest Beau est devenu salarié Chanel, donc est entré chez Chanel. Et assez rapidement, puisque en plus elle faisait cette association avec les Vertemer, et le parfum est produit en interne. Mais les choses pouvaient se faire en deux temps. Et puis vous avez des maisons qui ont choisi de ne pas forcément salarier le parfumeur et qui préféraient s'adresser à la maison de création pour avoir aussi la possibilité de changer de parfumeur selon le style ou selon leur... voilà.
Comme ce que pouvait faire, par exemple, Gabi Ajon chez Chloé au tout début. Exactement. Où elle prenait... voilà, tout à fait.
Dior a fait la même chose au début. Hein. Dior a eu Edmond Roniska, mais n'a pas eu que Paul Vacher pour le Miss Dior. Vous voyez, donc, ça donnait une forme de liberté. Mais on a vu que, par contre, il y avait deux maisons de couturiers, bon, outre Guerlain, hein, parce que Guerlain, c'était les parfumeurs familiaux, mais on voit qu'on a... la maison Patou et la maison Chanel qui ont fait le choix d'emblée d'avoir un parfumeur en interne. Voilà.
Et alors là, forcément, j'ai envie de parler de ce basculement où là, on entre dans l'ère du parfum comme première étape finalement, ou même pas première étape, parce que soyons honnêtes, la deuxième étape n'arrive que très peu en fait. Hein, donc simplement comme pis-aller pour un monde qui est beaucoup trop inaccessible en vérité, puisque gardons en tête évidemment qu'un parfum de maison et de créateur, ça coûte cher, mais ça coûte infiniment moins cher qu'une robe à 5000 euros par exemple.
Voilà.
Donc ça reste quand même un produit effectivement d'appel. Et donc j'aimerais sur ça retracer vraiment là les années 60, etc., qui vraiment vont commencer un peu à dépoussiérer, enfin vont vouloir dépoussiérer le monde de la mode et de la haute couture. Je pense par exemple, alors c'est dans les années 70, mais la bataille de Versailles, qui a vraiment été importante pour le monde de la couture, parce que là, les couturiers françaises se sont rendus compte que, ah, en fait, certes, la couture française, elle a cette lettre, comme vous le disiez au début, cette lettre de noblesse parce qu'elle est liée à un passé, mais que si un passé n'est pas indexé sur un futur, en fait, elle s'endort. Donc là, il y a eu un peu un mouvement de, OK, il faut qu'on secoue tout ça. Donc Saint-Laurent est arrivé à beaucoup secouer tout ça aussi. Puis une vague de créateurs dans les années 70-80. Et dans la parfumerie, j'imagine que c'est un peu la même chose.
Absolument. Absolument. On a... Si vous voulez, comme je vous disais, les années 50-60 sont marquées par cette notion de parfum d'empreinte où on fait entrer dans son univers. Mais c'est encore assez élitiste hein, dans l'idée, quand même. C'est une façon de faire entrer dans son univers des personnes qui n'auraient pas accès. La parfumerie va être aussi marquée par l'agrandissement du marché masculin. Mais la grande révolution va se faire avec Saint-Laurent, Y puis Opium de Saint-Laurent, dans les années 70, qui s'inspire d'un modèle américain qui se met en place à la fin des années 50.
Exactement comme il a fait pour le prêt-à-porter.
Absolument. Le prêt-à-porter est né aux États-Unis. Hein, et
longtemps grâce à des femmes, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et bien là, c'est pareil. Le modèle américain, il a été lancé grâce à une femme, Estée Lauder, parce que la parfumerie américaine existait, mais elle était très imbuée du modèle français. Et là, au contraire, Estée Lauder, elle va observer les femmes américaines qui n'ont pas du tout le même style de vie que les européennes. Et elles se disent, mais en fait, les femmes, elles veulent être parfumées une fois pour toutes. Et elle va lancer en 1953 Used You, qui n'est pas un parfum, qui est une huile parfumée, une huile pour le bain parfumée, extrêmement concentrée. Et c'est ce qui va faire émerger le marché américain de la création, avec un style américain très particulier, lisible, puissant, assez simple. Et dont va s'inspirer Saint-Laurent avec Opium.
Oui, parce qu'il faut aussi parler là du moment où c'est pas juste... Enfin, là, on a parlé de toute la constitution de l'image de marque, mais là, c'est carrément la constitution du buzz de marque, parce que Opium a fait scandale. Et puis, surtout, il y a aussi toute l'évolution là du marketing, où vraiment, on va se positionner pour être visible partout et par tous. Donc, comment est-ce qu'on peut traduire un peu et expliquer ces espèces de grands chambardements? Et donc, on parlait de Saint-Laurent et après, on parlera de Mugler là, qui va aussi carrément transformer même les habitudes olfactives. Mais en tout cas, dans ces années 60, 70, où vraiment là, il y a ce côté, forcément, mai 68, la dimension de la jeunesse qui va vraiment naître dans le discours pour capter cette jeunesse aussi. Comment est-ce que le parfum et le parfum de couturier va traduire un peu toute cette effervescence-là et ce changement de positionnement du parfum de créateur?
Si vous voulez, il y a quand même un mouvement de fond qui est l'accélération des valeurs féminines. Donc effectivement, même avant mai 68, il y avait une aspiration de la jeunesse du baby-boom à renverser les valeurs de papa, comme on disait, hein, donc d'avoir beaucoup plus de jeunesse, un nouvel exotisme, etc. Il y a eu le mouvement hippie qui commence à se mettre en place à la fin des années, dans les années 60, surtout à la fin des années 60 avec le retour de Woodstock. Et du coup, une aspiration aussi à une autre parfumerie, moins consumériste, avec plus de sens, plus d'exotisme. Donc, on le voit déjà...
C'est là le patchouli aussi qui s'impose.
Absolument.
Quelque chose de plus
donc,
terreux.
On voit avec quelques parfums très typiques, comme Fiji de Guy Laroche. Vous voyez, La femme est une île, Fiji est son parfum, donc ce nouvel exotisme. On l'a aussi avec des marques beaucoup plus à la marge, comme Réminiscence, qui va lancer son fameux patchouli directement inspiré de ce que rapportaient les hippies hein, le flower power. Donc
c'est,
le...
c'est ça, parce que je pense que je me dis, le mouvement hippie, c'est presque comme l'orientalisme à la fin du enfin, milieu et fin du 19e. Il y a cette notion finalement d'un Orient rêvé, là, plus libre, plus...
Plus voilà. Sulfureux quand même.
Oui, hein. Mais voilà.
C'est un Orient beaucoup plus sulfureux. Et effectivement, les
avec
hippies...
les odeurs d'encens, etc.
Ouais, les hippies rapportent directement des choses qu'ils trouvaient sur les marchés. Hein, donc ils rapportent du patchouli, ils rapportent du santal, ils rapportent de l'ambre. Et
c'est important parce que Saint-Laurent souvent est à la marée. Bon, c'est pas forcément hippie dans l'idée parce que c'est un peu plus, il a, bah voilà, c'est moins sur les notions complètement d'anarchie qu'il pouvait y avoir, mais en tout cas cette notion d'odeur forte s'imprègne aussi en Occident.
Absolument. Et donc Saint-Laurent va créer sa maison de anti-couture, hein, dans les années 60, et il va lancer son premier parfum Y, où il pose nu, vous savez, devant l'objectif de Jean Lussieff. Et en 77, il va aller encore un peu plus loin avec Opium. Un parfum, d'ailleurs, l'équipe marketing qui était derrière lui ne voulait pas le suivre sur le nom. Je vous rappelle, hein, on est quand même en grande période de drogue dure, de mort par overdose, etc. Donc
et en plus, c'est presque pris un siècle après la guerre d'opium.
Absolument. Donc, c'était même s'il avait déclaré qu'il voulait créer un parfum pour l'impératrice de Chine, c'était quand même un peu mettre le feu aux poudres. Donc, il va s'inspirer pour le créer, non seulement de cette hyper-concentration des parfums américains depuis Yuzhou, il va s'inspirer de sa collection couture chinoise. Il va s'inspirer également d'une petite pièce antique qu'il a, donc un inro dans lequel les samouraïs glissaient leurs boulettes d'opium. Et là où il va être aussi très dans la modernité, c'est qu'il fait appel à Pierre Dinan, qui est un des grands designers, qui, un peu comme Serge Manceau aussi, sait capter l'air du temps à grande vitesse. Je vous rappelle, accélération des valeurs féminines, hein, on commence à avoir un marché qui s'accélère. Et il va lancer un flacon qui est en plastique, une résine, hein, qui imite la laque, donc qui évidemment va permettre une quantité beaucoup plus importante du flacon avec un parfum qui est quand même un des plus chers du marché à l'époque, hein, un des plus concentrés, un des plus chers. Je vous rappelle aussi qu'à l'époque, les bureaux commencent à être climatisés et que donc l'air climatisé tue un peu les odeurs. On sent beaucoup moins dans un air climatisé. Et donc, il fallait dans les bureaux avoir une présence. C'est l'époque où la femme commence à conquérir ce qu'on a appelé dans les années 80 veste contre... Voilà, veste contre veste. Et donc, qu'est-ce qui vous donne une identité sociale, une présence sociale? C'est aussi votre parfum. Ce que Gabrielle Chanel avait très bien compris en 21 avec le numéro 5. Donc, elles ont besoin de ces parfums coup de poing. Et Opium va être un des premiers parfums coup de poing, va amorcer cette grande vague qu'on va trouver dans les années 80, oui, avec Poison de Christian Dior, oui, Giorgio de Beverly Hills. Donc ces parfums très capiteux, qu'on trouve aussi en parfumerie masculine, hein, oui, qui est à la fois pour ce côté d'empowerment, donc vraiment ce pouvoir, prise de pouvoir, mais aussi, n'oublions pas, cette idée de l'air climatisé, hein, qui nécessite d'avoir des parfums plus puissants. C'est aussi l'époque où apparaît l'eau de parfum, parce que le parfum est taxé par la taxe du luxe. D'accord. Et donc, pour contourner cette taxe de luxe et offrir aux femmes un parfum puissant toute la journée, va naître l'eau de parfum à la fin des années 70. Donc, vous voyez, tout ça se met en place. Voilà, oui, je vous schématise.
Oui, non, hein, parce que là, évidemment, on pourrait faire un podcast entier, voilà, sur le parfum. Donc,
et sur chaque décennie, hein, pratiquement.
Bien sûr. Mais alors, justement, vous parliez du fait que... Il y a deux choses qui se concordent. D'abord, la notion d'un parfum qui va vraiment être un produit d'appel, puis ce flaconnage en plastique, etc. Mmh. Donc, ma question, c'est forcément, quel rôle va jouer le parfum dans la mondialisation du luxe accessible et démocratique? Parce qu'en fait, on parle tout le temps de la mode Saint-Laurent, du tailleur Saint-Laurent, etc. Mais en fait, Pierre Berger, parce qu'il y a aussi Pierre Berger dans l'affaire, est un homme d'affaires qui vraiment veut voir Saint-Laurent comme un empire. Donc, quel rôle a joué le parfum aussi dans la rentabilité économique de la maison Saint-Laurent et ensuite dans la façon dont les maisons se sont structurées? Parce que, par exemple, pour Mugler, ça a été indispensable. Donc,
Comme le Miss Dior pour Dior, dès 47, hein, il lance son total look, il lance son new look et il va lancer 40, en même temps Miss Dior. Donc, le parfum devient absolument incontournable dans l'univers de la couture. Pour Saint-Laurent, ça aussi, ce qui est très nouveau, c'est qu'à la fin des années 70...
Prêt-à-porter, c'est pas que couture, là.
Oui, prêt-à-porter. Et Rive Gauche, d'ailleurs, sera vraiment plus le parfum du prêt-à-porter en 79. Mais ce qui est important aussi à noter, c'est qu'à partir de la fin des années 70, apparaît le marketing, qui est déjà aux États-Unis bien installé, mais qui va donner le là à toute création, et y compris dans la parfumerie. Et donc, on va avoir cette notion de globalisation hein, de l'offre, avec, alors peut-être pas aussi poussé qu'aujourd'hui, parce que le marché n'est quand même pas aussi important qu'aujourd'hui.
Beaucoup moins lisible aujourd'hui.
Voilà, mais quand même cette idée qu'on doit plaire à différentes femmes, à différentes cultures, et Opium, même si aux États-Unis, Opium va défrayer la chronique, hein, avec le gros titre dans le New York Times, le lancement était colossal pourtant, hein. Mais malgré tout, il fait le buzz, et ça devient un immense succès aux États-Unis. Donc forcément, le parfum, c'est un petit peu l'ambassadeur de la couture. Il va drainer un certain nombre de clientes qui, au début, n'achèteront peut-être pas le tailleur, le smoking, mais achèteront un sac, puis une paire de chaussures. Et c'est ainsi que, peu à peu, il va amener à lui toute une population féminine dans son univers et donc une rentabilité qui est évidemment beaucoup plus importante.
Oui, parce que vraiment, il faut avoir cette idée en tête que le vêtement en lui-même, en fait, il coûte tellement cher à produire qu'il est rarement rentable en réalité.
Absolument.
On pourrait aussi faire un épisode, parler de toutes les questions de licence, etc. Mais là, je voudrais avancer aussi par rapport à l'histoire. Là, évidemment, le parfum Angel en 92, parce que c'est une révolution dans notamment les odeurs gourmandes.
Oui, alors... Angel, il appartient à cette nouvelle génération qu'on a appelée les parfums de créateurs.
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est un petit... Alors, designer, on est déjà avec Yves Saint Laurent, mais créateur, c'est encore autre chose. Et là, la particularité, c'est qu'ils n'ont pas envie, on le voit avec Montana et Kenzo, qui sont les contemporains de Mugler, de Thierry Mugler, ils n'ont pas l'envie de plaire à tout le monde, ils ont l'envie d'exprimer une créativité de créateur, voyez, ils ont envie d'exprimer quelque chose de leur âme quelque part. Et Thierry Mugler, quand il veut créer son parfum, là aussi il est un peu comme Saint Laurent, c'est-à-dire qu'il a absolument son idée et il va pousser très loin les prouesses de faisabilité à tous les niveaux. Donc son idée majeure, c'est de dire je veux créer un parfum comme un petit garçon rêverait d'offrir à sa maman. Et il va s'inspirer à la fois du parfum de sa mère, qui était Chalimard de Guerlain, mais aussi de tout ce qu'il aimait enfant, et notamment les fêtes foraines, où il y a des barbes à papa, où il y a des pommes d'amour, où il y a tout ce côté, voilà, très régressif, très le petit garçon qui à la fois sent Chalimard de sa maman, mais aussi mange une barbe à papa, voyez. Et... L'étoile, vous savez, était le signe fétiche de Thierry Mugler. Donc, il veut un flacon qui soit en forme d'étoile. Et là, ça va donner à Vera Straubi, qui est à l'époque la présidente des parfums Mugler, ça va lui demander de faire des prouesses de faisabilité. Parce que c'est un flacon qui est extrêmement difficile. Et donc, un moule a été mis au point particulièrement pour ce flacon, etc.
Puis, tu as parté d'ailleurs dans le magazine Griffé, où j'ai reçu les deux créateurs sur le podcast pour en parler. Ils ont vraiment fait un magazine dédié à la maison Mugler. Il y a un passage là-dessus et également dans la vidéo de Loïc Prigent sur une longue interview avec Thierry Mugler où il en parle de ça, justement.
Et également, je vous ajoute, moi, j'ai écrit un ouvrage dans la collection Bouquin. Les parfums, histoire, anthologie, dictionnaire, et j'ai mis un texte dans ma partie anthologie. Bien sûr, je raconte toute l'histoire de Angel, mais j'ai mis un texte de Vera Straubi dans mon anthologie où elle raconte vraiment tout.
Il faut courir lire ça, moi j'y vais de ce pas.
Voilà, donc c'est un livre qui est paru en 2011, mais en tous les cas, voilà, il y a l'histoire. Moi, dans ma partie histoire, bien sûr, je raconte l'histoire de Angel, mais il y a ce texte très intéressant de Vera Straubi qui raconte ça, donc je vous le résume. Et la partie flaconnage est extrêmement compliquée. Et aussi, pour traduire cette envie qu'avait Thierry Mugler de ce parfum de petit garçon, là aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il y avait des parfums gourmands. On peut dire que les parfums Poiret étaient des parfums un peu gourmands, notamment le fruit défendu. On peut dire que Mitsuko de Guerlain faisait allusion avec cette idée de la pêche, vous voyez, à quelque chose d'un peu gourmand, mais
oui,
ce n'était pas gourmand au sens alimentaire. Et la grande idée d'Olivier Crespe, qui est le parfumeur, ce sera d'utiliser une molécule qui était surtout utilisée en arôme, pour les arômes, pour donner cette note gourmande, cette note de sucre chaud au parfum. Alors, naît cette composition, donc, qu'on disait à l'époque ambrée, un ovni total, ambrée gourmande, donc qui va faire naître les notes gourmandes en parfumerie. Évidemment, c'est tellement un ovni que Vera Schrubi a compris, parce qu'au début, tous les distributeurs refusent le parfum en disant que ça ne marchera jamais. Et elle a compris qu'il faut le raconter. Et c'est là où elle va créer les fameux bus Mugler, ouais, les bus vrai. Angel à l'américaine. Et elle va parcourir, d'abord au début, il est lancé qu'en France. Il va parcourir la France entière. Et il y aura ces femmes habillées en bleu à la Mugler pour raconter ce parfum et ce très, très beau visuel d'Estelle Lefébure sur les toits de l'Opéra de Paris. Parce que rappelons que Thierry Mugler est un grand danseur de l'Opéra de Strasbourg. Et
photographe d'ailleurs aussi.
Et photographe
qui aussi. Ne retouche à rien, ce qui est effrayant quand on voit
la beauté des clichés. Et extrêmement visionnaire. Donc,
attendez, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est essentiel, c'est la dimension de packaging rechargeable. Absolument. Ça, c'est une révolution absolue, ça.
Je vais vous raconter aussi pourquoi. Parce que ce flacon à produire coûtait une fortune. Et Vera Schrubi se dit, nous ne pouvons pas le mettre sur le marché à un prix modique si nous allons perdre de l'argent. Donc, nous allons dire aux femmes, c'est un investissement. Vous allez l'acheter une fois cher, mais après, vous allez le ressourcer. Là encore, tellement visionnaire, on est en 92. Tous les distributeurs, parce qu'ils avaient, en fait, au début, ils avaient un accord exclusif avec Marionneau. Marionneau lui dit, mais on va mettre où ces sources Mugler? Ça va nous prendre de la place, on n'en veut pas, etc. Bon, elle arrive à s'arranger avec tout le monde. Et effectivement, les femmes, peu à peu, vont ressourcer leur étoile à la source directement et donc payer moins cher en seconde fois le parfum. Ce qui est très intelligent parce que d'abord c'était un geste ancestral, c'est ce qu'on faisait bien avant, mais aussi ça vous fédilise les femmes. Et bien Angel sûr. Est devenu un succès énorme, tout d'abord en France, puis ensuite dans le monde entier, mais d'abord surtout en France.
Et est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, parce qu'aujourd'hui on est arrivé un peu dans une... dans une dimension un peu délirante où c'est presque décorrélé parfois de certaines marques où le parfum est devenu tellement rentable, tellement un projet de marketing. Enfin, je pense par exemple aux pubs. Moi, j'ai grandi avec la pub Chalimar, etc. Et c'était ça rivalise. J'ai reçu Jean-Paul Goude sur le podcast il y a longtemps, mais même lui, il me parlait de cette espèce de fantasme que générait le parfum, parce qu'il avait l'impression d'être beaucoup plus libre. On voit toutes les campagnes qu'il y a eu pour le numéro 5, même là encore pour, le Bleu de Chanel avec Scorsese. Enfin, il y a une espèce de liberté dans le marketing du parfum qui est complètement folle. Et donc aujourd'hui, finalement, il y a eu un peu... une uniformisation aussi, parce qu'on est allé tellement loin, tellement vite, peut-être dans l'offre, comparé à par exemple des parfums de créateurs comme Mugler. Je vais assez vite, hein, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Mais aujourd'hui, on se situe où? Parce que il y a la concurrence croissante du retour finalement à ce qu'il y avait au tout début du 19e, à savoir les marques de niche. Et aujourd'hui, on est sur des marques qui ne sont pas forcément axées sur la communication, sur le marketing, mais qui s'adressent à une clientèle qui est vraiment désireuse d'avoir une valeur ajoutée et qui finalement est désireuse moins d'un univers de marque qu'elle a l'impression d'avoir poncé et reponcé et surtout qui vend un peu du vent, quoi. Donc aujourd'hui, on en est où de ces questions de lien entre maisons de mode? Et après aussi, il y a des problématiques administratives dans le sens où L'Oréal est quand même propriétaire d'énormément de parties beauté qui sont en fait décorrélées des marques aujourd'hui. Donc c'est aussi un gros sujet.
On va mettre les licences qu'on a aussi avec Interparfums, etc. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, on est allé tellement loin dans cette logique de marketing qu'on a usé un peu le marché. Et ce que l'on voit, surtout depuis le Covid, d'une épidémie qui a touché le sens de l'odorat, où on a vu combien c'était compliqué de vivre sans odorat. Et on le voit avec la génération Z.
Mais c'est vrai.
Ouais, c'est dingue. La génération Z, c'est l'antique. CK1, vous savez, dans les années 90, CK1, les jeunes, ils voulaient être claniques. Ils voulaient tous se ressembler. Ils voulaient, c'était le gender fluidity, mais dans l'uniformité. Aujourd'hui, on est toujours dans le gender fluidity, mais dans la différence.
Et de toute façon, aujourd'hui, de par les références même culturelles, les algorithmes, oui. En fait, sont complètement indexés à notre identité. Donc, du coup, tout est complètement nucléarisé, en fait.
Et aujourd'hui, cette génération Z, d'abord, aime le parfum. pour sa singularité, aiment le parfum comme des collectionneurs, donc collectionnent les parfums, comme des pièces d'art, et va vers la niche, parce que justement, elle se dit, même si la niche est devenue une vraie tendance marketing, elle se dit qu'au moins, elle est dans des inspirations de créateurs. Elle est avec des parfums qui ont une plus grande valeur ajoutée sur le plan des matières premières. Elle est aussi dans une parfumerie qui fera que chaque personne ne ressemblera pas à tout le monde. Et ça, c'est très important, cette notion de singularité. Et comme c'est une jeunesse, une génération qui est de plus en plus informée et de mieux en mieux informée, je vous le rappelle, c'est très important, le parfum, pour distinguer la qualité du parfum, il demande une éducation. Et donc, il y a toute une génération où les générations ne connaissaient rien sur le parfum. Donc, il y allait soit parce que le style plaisait, soit parce que l'égérie correspondait à son idéal, mais il n'y allait pas pour les qualités intrinsèques du parfum qui le jus. Or, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce avant les réseaux sociaux, au blog, grâce au podcast, grâce à toute cette culture qui est mise à la disposition des générations montantes, il y a une exigence qui se crée. Et cette génération Z, elle est extrêmement bien documentée. On ne peut pas lui faire à l'envers. Et forcément, elle va se tourner vers la parfumerie de niche, à la fois parce qu'elle y retrouve un geste créatif, artistique, plus important, certainement, que tous ces parfums qui sont atteints par les dupes. Hein, les dupes, c'est tous ces parfums de contrefaçon qui finalement copient l'original, ce qui est quand même quelque chose de très laid, hein, mais qui va toucher la valeur intrinsèque de ces parfums-là, alors que la niche n'a pas les mêmes volumes. Donc, réunie, elle a des volumes très importants et c'est la plus grande croissance aujourd'hui, hein, malgré tout, sur le marché. Mais elle est encore, sur le plan du secteur, c'est encore des volumes relativement plus restreints. Donc, elle ne va pas attirer des dupes particulièrement. Et donc, les consommateurs, les jeunes consommateurs, vont y trouver quelque chose d'authentique.
Et oui, alors voilà, c'est ça, parce qu'en fait, le gros sujet aujourd'hui dans le luxe, c'est qu'en fait, on a tellement indexé la dimension de luxe sur en fait la dimension de marque et de ça coûte cher, on a oublié qu'à la base, le luxe, c'est quand même l'élégance au sens vraiment étymologique, c'est-à-dire l'élection. Donc le fait d'avoir quelque chose qui va vers l'excellence et qui va vers un choix construit et surtout une qualité. Et donc en fait, on se dit, finalement, j'ai l'impression de payer quelque chose de cher parce que c'est cher et pas parce que ça a un intérêt plus. Et finalement, cette espèce de tautologie de c'est du luxe parce que c'est du luxe ne fonctionne plus. Et donc aujourd'hui, on va chercher une valeur. Et donc la question que j'ai par rapport à ça, c'est finalement comment se positionnent les grandes maisons par rapport à ça, parce que j'ai l'impression, et je le vois notamment avec les parfums de l'OEV, parfums Bottega, etc., que les maisons essayent finalement de créer aussi un univers de niche au sein même de leur offre. Je pense aux exclusifs de Chanel, bon, ça existe depuis longtemps, mais là, ils viennent de sortir Lyon, etc. Il y a aussi eu Comet, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a évidemment toutes les créations, les exclusifs de Tom Ford, etc. Donc, comment ça se passe aujourd'hui pour que les maisons essayent un peu de se repositionner par rapport à cet univers de la parfumerie face justement aux niches?
Bien, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que finalement, on a vu ça à partir des années 2004-2005, c'est que les grandes maisons de mode et de couture, de mode et de parfum, les grandes maisons de mode et de parfum, ont intégré dans leur catalogue une niche qu'ils ont appelée collection exclusive.
Le vestiaire chez Saint Laurent.
Le vestiaire chez Saint Laurent. Il y a eu chez les Hermès Sens chez Hermès. Un des premiers aussi, c'était Armani Privé. Donc, ils ont voulu, si vous voulez, se réattribuer ces valeurs de luxe que sont donc la qualité des matières premières, la créativité, l'exclusivité, la singularité. Et c'est une façon pour elles de se réapproprier justement ce luxe qui est aujourd'hui davantage recherché. C'est un peu la notion du no logo, vous voyez, d'être dans la vérité. Oui, le quiet luxury, d'être vraiment dans quelque chose que seuls les initiés
exactement,
peuvent ceux connaître, qui savent, ceux qui savent, en fait les connaisseurs. Et ça, c'est très important. Et en parfumerie, c'est ce mouvement-là qui touche d'ailleurs beaucoup la génération Z, parce qu'elle est informée, comme je vous disais, elle est très cultivée. Et ils vont se tourner vers les niches. Et forcément, si les grandes maisons n'avaient pas intégré comme Guerlain aussi, l'art et la matière, des départements exclusifs, aujourd'hui, ils ne seraient plus dans le game, quoi. Ils ne seraient plus dans le jeu. Voyez.
Et alors justement, ils ne seraient même plus dans le jeu, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. Mais ce qui est absolument fascinant et ce que je trouve très important justement pour comprendre à quel point ce changement de paradigme est vraiment prégnant, c'est-à-dire que on parle quand même d'une époque d'ultra-digitalisation. Là, on parle quand même de parfum, quoi. C'est-à-dire que autant la mode a été impactée par l'ultra-digitalisation parce que bah, ça suppose des matières, des coupes, etc., de toucher, de sentir. Mais là, le parfum, c'est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir aucun lien avec un parfum si on ne le sent pas. Et donc, je trouve ça extrêmement important de se dire qu'aujourd'hui, dans une époque où on pourrait se dire « la jeune génération, de toute façon, n'est intéressée qu'au e-commerce, qu'au digital, qu'aux écrans, etc. », il y a... Parce qu'en fait, tout le secteur du luxe, globalement, est en crise. Hein. Et ça, c'est des chiffres très, très récents, sauf le parfum. Ce qui est quand même...
Alors, le parfum a eu une baisse quand même. Hein.
Oui, non, mais comparé à tout le reste, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le seul qui s'en sort assez bien. Et même, c'est-à-dire qu'il y a eu une inflation énorme sur tous les prix à post-Covid. Les marques se sont un peu calmées parce qu'elles se sont rendues compte que c'était une greedflation absolument impossible à suivre pour les clients. Sauf qu'elles ont commencé à augmenter les prix des parfums parce que ça vendait encore. Donc, on se rend bien compte que
là,
vraiment...
Ça se ralentit. Hein. L'année 2025 a été un gros ralentissement quand même du marché.
Mais là, de toute façon générale, c'est pas la fête dans le luxe. Mais ce que je veux dire, c'est que de façon générale, même par rapport à la niche, on voit bien qu'il y a une volonté, en fait, de renouer avec la matière. Pas juste de mettre une photo, pas juste de performer une image, mais vraiment de renouer dans son intimité. Et là, encore une fois, je rejoins votre introduction qui était parfaite sur ce sujet, parce qu'en fait, c'est toujours ça. C'est-à-dire que c'est toujours comment est-ce qu'on retrouve un lien intime et ancien passé avec quelque chose qui, justement, nous permet de renouer un lien avec le futur. Et donc là, en parlant du futur, j'ai précisément envie de vous poser une question pour terminer un peu cet échange, qui est sur qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Parce qu'en fait, il y a aussi une réalité qui est de se dire que bah, la clientèle américaine est de plus en plus instable, parce que c'est compliqué avec les questions trumpistes, même si bon, ça va évoluer. Bah, la clientèle russe, ça a été quand même pour le moins freiné. Là, au Moyen-Orient, c'est quand même un peu compliqué avec ce qui se passe, etc.
Il y a un gros réservoir, pourtant.
Voilà. Et là, du coup, maintenant, c'est aussi... On regarde l'Inde, on regarde la Chine. Et en fait, qu'est-ce que vous diriez, vous, à des marques qui essayeraient de développer leur rapport au parfum en faisant attention à justement ce qui se passe sur des scènes ailleurs, sur d'autres façons d'appréhender le parfum et d'autres marques qui sont concurrentes, parce que vous parlez des parfums de niche, mais par exemple des marques comme Amouage, etc., elles sont quand même très prégnantes aussi sur des marchés qui sont étrangers. Donc finalement, comment imaginer un peu l'avenir des maisons françaises de couture pour ce monde du parfum en France et à l'étranger?
Alors, effectivement, la niche, c'est un phénomène qui est mondial aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez maintenant dans tous les pays du monde. Moi, j'ai la chance de beaucoup voyager en Chine et aussi au Moyen-Orient. Vous avez effectivement des maisons de niche, même en Corée, au Japon, en Amérique latine. Et en Europe, vous en trouvez Portugal, Italie, etc. Et qui sont des maisons de très, très bonne qualité. Parce que oui, on a beaucoup parlé de la matière première. C'est vrai que c'est très important. Mais il y a une autre donnée qui est très, très importante et qu'on trouve dans la niche et qui est très à la demande aussi de cette nouvelle génération, c'est le storytelling. C'est-à-dire qu'on n'en veut plus des concepts marketing, on veut un storytelling qui ne soit pas marketé, qui soit authentique, qui repose éventuellement sur les traces du passé, si vous voulez, sur des origines. Je pense à un certain nombre de maisons. Vous voyez, par exemple, vous parliez d'Amouage, mais Amouage fait vraiment référence à cette tradition de l'Arabie heureuse, des matières fétiches du Moyen-Orient. Donc, il y a aussi ce besoin de sens, voyez, de pas avoir certes des belles matières premières, mais aussi avoir du sens, donner du sens au sens. Et ça, c'est très important. Et pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, toutes ces maisons de niche, elles se développent. Alors, elles ont en commun ce rapport à la matière première avec cette exigence de beaux matériaux, mais aussi elles se développent avec leur particularité qui est liée à leur histoire, à leur culture, à leur civilisation. Et moi, je le vois en Chine, où c'est absolument fascinant comment cette nouvelle niche chinoise se réapproprie cette tradition olfactive qui est millénaire, qui est certainement peut-être une des premières civilisations, même avant le monde arabe, du parfum, qui a été totalement occulté par la révolution culturelle parce que Mao Tse-tung refusait l'idée du parfum comme la mode. Hein, tout
oui,
le monde,
c'est la même chose unique. Bien sûr.
Donc, on était totalement, c'était un produit qui était tout à fait banni. Et là, il y a, par les jeunes générations, une réappropriation de leur culture olfactive. Et ça, c'est absolument fascinant. Et on le voit également en Russie, où vous avez aussi toute une tradition russe qui se remet en place. Alors certes, aujourd'hui, la situation géopolitique, elle est compliquée. Elle est compliquée pour les échanges, elle est compliquée voilà, d'une manière générale. Et je pense que quand on a l'esprit occupé ailleurs, évidemment, on n'est pas dans ces préoccupations un peu futiles. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le parfum, ça a toujours été un pourvoyeur de bonheur. Et que je n'ai jamais vu ni entendu des personnes parler du parfum, c'est notre cas en ce moment, sans avoir le sourire. Le parfum, vous savez, c'est ce que disait un philosophe américain du 19e siècle, qui disait que le parfum, que le bonheur était un parfum, que l'on ne pouvait répandre sur autrui sans en verser quelques gouttes sur soi-même. Et aujourd'hui, le parfum, c'est encore cette idée du bonheur, c'est encore cette réassurance, comme on l'a vu avec Thierry Mugler, c'est encore aussi une façon de nous relier aux autres, nous relier au monde, et avant tout, nous relier à nous-mêmes. Donc, malgré tout...
C'est justement ce dont vous parlez, c'est que c'est profondément intime.
C'est profondément intime. Et vous savez, c'est Jean Genot qui disait que le parfum, c'était l'odeur plus l'homme. Et ça, je pense que c'est très important. Ce n'est jamais qu'une odeur, c'est toujours une rencontre. Donc, même si aujourd'hui le monde va mal, trouvons du bonheur dans cette évanescence, dans ce monde absolument extraordinaire des senteurs, qui ne pourront que nous donner du bonheur, une forme d'évasion. Hein. C'est le voyage, hein, le parfum.
Tout à fait. C'est une très bonne façon de finir. Et puis, justement, en rappelant bien que aussi, ce qui est très important, c'est que ce que le parfum a de très fort aussi, c'est que quand on porte un produit luxe, etc., en fait, on ne se voit pas. Le parfum, on sent soi-même, on sent son lien à l'autre. Il y a quelque chose qui est vraiment, en fait, de renouer avec le monde ici et maintenant. Donc, c'est aussi absolument essentiel d'en parler maintenant.
Même si, c'est souvent une question qu'on me pose, le parfum, vous le sentez quand vous le portez au début.
Après,
vous ne le sentez plus. Parce que l'odorat, il faut quand même rappeler ce sens de l'odorat qui, primitivement, était celui qui nous indiquait le danger. Donc, à partir du moment où vous avez intégré cette odeur comme étant familière, le cerveau ne vous envoie plus l'information. Heureusement pour nous, d'ailleurs, parce qu'on aurait quand même des grosses migraines. Mais il ne faut pas oublier ça, c'est que le nerf olfactif est relié non seulement à la partie la plus archaïque du cerveau, hein, tout ce qui va être siège des émotions, mais aussi c'est l'indication du danger. Donc une fois que l'odeur est intégrée comme familière, vous ne la sentez plus.
Et c'est pour ça qu'une façon de régler ce problème, c'est de changer régulièrement de parfum.
Absolument. Voilà. Ce que fait la génération Z d'ailleurs.
Exactement.
Collectionne les parfums et va changer en fonction, un peu comme une garde-robe. C'est une garde-robe active. Hein.
Tout à fait. Écoutez, c'est une très bonne façon de finir. J'espère que c'était un moment agréable pour vous.
Bien sûr, absolument. C'est toujours fascinant de parler, d'échanger.
Et est-ce que vous pourriez dire pour les auditeurs qui seraient curieux de suivre un peu votre actualité, lire peut-être vos ouvrages, voir un peu ce que vous avez fait, où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux en cours et peut-être à venir?
Alors déjà, j'ai mon profil Instagram, Elisabeth de Fédot, tout attaché, où là, vous avez presque au jour le jour des activités, enfin des posts et des stories. Et sinon, mon dernier ouvrage donc, qui est paru, c'est Les Voluptueuses, qui est donc chez Flammarion, qui est sorti il y a un an, qui est une histoire parfumée des femmes de légende et qui est une façon de répondre à la grande question « Quel est le pouvoir d'une femme parfumée ?» J'ai également écrit l'histoire de la maison Robertet qui est sortie chez Assouline il y a quelques mois. Et là, je suis en train d'écrire donc un grand ouvrage, une bible de parfum qui va sortir en octobre 2026 et qui sera vraiment pas que du parfum, on va dire franco-français, mais qui est vraiment une grande ouverture sur la parfumerie du monde.
On a hâte de lire ça. Écoutez, merci beaucoup. Puis, je vous dis à très bientôt.
Avec grand plaisir.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et bien sûr, merci à Elisabeth de Fédot pour son temps et son analyse. Cet épisode était vraiment passionnant, en tout cas, de mon point de vue, c'était un régal de l'écouter déployer toute cette histoire. Et à bien y regarder, le parfum n'est jamais là où on l'attend tout à fait, ni tout à fait objet, ni tout à fait image, et pourtant profondément matériel, il circule entre les époques, entre les modèles et entre les usages. Et c'est ça qui en fait un observatoire si précieux. À travers lui, On voit se dessiner l'histoire d'un luxe qui s'ouvre, se diffuse, s'industrialise, puis par moments se resserre à nouveau, cherchant dans la rareté ou la singularité une nouvelle forme d'intensité. En tout cas, aujourd'hui, c'est profondément ce qui se passe. Si cet épisode vous a plu, je vous invite bien sûr à vous abonner à Décousu sur Instagram et sur votre application de podcast, et également à partager l'épisode autour de vous. C'est une formidable façon d'aider le podcast à se développer. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.